Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Salut Perrine.
Salut.
Ben écoute, merci beaucoup de prendre le temps aujourd'hui en cette jolie journée ensoleillée. J'espère, il fait beau chez toi ?
Ouais, il fait beau là, c'est cool. Ça fait du bien au moral.
Ok. Ben on est dans une période un petit peu compliquée pour tout le monde puisque c'est le confinement. Toi, comment est-ce que tu vis cette période et est-ce que tu es en sécurité actuellement ?
Moi, je le vis plutôt bien parce que en fait, ça tombe à la période de l'année où on est en repos, où on a fini notre saison. Donc c'est vrai que c'est cool de pouvoir rester à la maison. Et voilà, de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et de pas trop bouger aussi, ça fait du bien, nous qui sommes toujours dans une valise à droite à gauche.
Ouais, c'est vrai que tu fais toujours le tour du monde, donc là t'es venu te reposer en famille, c'est ça?
Ouais, exactement. Je suis en famille, donc ça fait du bien aussi de profiter des proches aussi.
Ok, ouais, bah t'as raison. Effectivement, il faut se recentrer sur l'essentiel et puis sur les gens qui comptent pour nous. C'est vraiment un moment, je
Tout à
pense, où il faut
fait.
se ressouder un peu et repenser un peu le monde et notre organisation. Mais écoute, je te le disais à l'instant, la tradition sur ce podcast, c'est de commencer un petit peu par l'enfance et de savoir qui tu étais étant plus jeune. Et je voulais savoir si tu avais un premier souvenir de sport à nous partager.
Alors c'est vrai que moi j'ai commencé hyper tôt le ski, j'avais 2 ans,
ouais.
Même les compétitions j'ai dû commencer à 6-7 ans peut-être, donc c'est vrai que je m'en souviens pas trop, mais si ce serait ma première compétition de ski, ça aurait été dans ma station, mon Dol. Donc, ouais, pareil, j'étais toute jeune, je devais avoir 5-6 ans et du coup j'avais gagné cette compétition et en fait c'est la première fois que je montais sur un podium. Et en fait, quand il m'avait appelé, j'avais pleuré parce que ça me faisait peur de monter toute seule et je cherchais ma mère parce que j'étais terrorisée, quoi.
Non, et t'avais peur de monter toute seule et d'être face à tout le monde.
Ouais, carrément.
C'est un peu intimidant. Ok, d'accord. Et tu avais quel âge au moment de cette compétition?
Ouais, je devais avoir 5-6 ans, pas plus. J'étais toute jeune.
Okay. Mais attends, rassure-moi, c'était pas du ski de boss, c'était de la descente ou...
Eh ben, je m'en souviens pas.
Ouais, bah pour dire à quel point ça remonte.
Ouais.
J'ai cru comprendre que tu avais une famille dans laquelle le sport de haut niveau est très ancré, non ?
Oui. En fait, mon père faisait du ski de boss. Il a fait de la compétition au niveau national. Mon frère, pareil aussi. Donc, c'est vrai que voilà, on est une famille de compétiteurs.
Ok. Et c'est la même génération que Edgar Gros-Piron pour ton père ?
Mon père à peu près, oui, il est un peu plus âgé quand même.
Okay.
Ah oui, il est quand même plus âgé parce qu'il est allé voir Edgar courir aux Jeux d'Albertville en 92 avec mon frère. Donc
okay.
Ouais, il est un peu plus âgé quand même.
OK. Donc le ski de boss, c'est le sport de famille et
oui.
On parle de ça du petit-déj jusqu'au dîner, j'imagine.
Ouais, exactement, ça a été vraiment le sport qui était autour de nous depuis notre plus grande enfance avec mon frère et c'est vrai que ouais on a vécu avec ça toute notre jeunesse.
Ok. Et toi, est-ce que tu, du coup, enfin j'imagine que ça devait être beaucoup des modèles un petit peu pour toi. À quel âge du coup t'as commencé à les suivre?
Assez tard quand même. Je crois que ça a été aux alentours de 2009-2010 quand il y a eu
okay.
les Jeux à Vancouver, où là du coup j'étais un peu plus grande quand même. Mais ouais, ça devait être à ces alentours-là, je devais avoir 11 ans, 10-11 ans.
D'accord, ok. Et tu avais des idoles dans ce sport ou dans d'autres d'ailleurs?
Oui, moi alors 2010 c'était Guilbo Kola.
Ouais,
qui était donc un ancien bosseur et ouais, mes parents m'avaient levé au milieu de la nuit parce que c'était du coup en décalage avec le Canada pour regarder la finale des Jeux.
Ouais, d'ailleurs, écoute, il est passé sur ce podcast au mois d'octobre. J'ai passé
ouais,
un super
d'accord.
moment avec
lui. Ah, c'est cool.
Ouais, Guilbo est un super mec et d'ailleurs effectivement moi j'avais regardé un peu sa finale au JO, souvenir un petit peu triste pour lui. On sent que ça a été dur alors qu'il était le grand favori de louper un peu sa finale quoi.
Ouais, carrément, c'est ça qui est difficile au jeu. C'est vrai que tu peux être t'as beau être le favori et que tout le monde t'attend et que t'as 95% de chances de gagner, mais ouais voilà, il reste toujours ces 5% où le mental peut passer un peu au-dessus des capacités physiques et tu peux perdre tes moyens à tout moment, quoi.
Ouais. Et du coup, qu'est-ce que t'appréciais, toi, chez Guilbo? Il avait c'était son style de glisse, ses sauts, son caractère?
Oui, c'était tout. C'est vrai que ça a été un des plus grands skieurs de boss de la planète. Il avait un style de ski qui était impressionnant. Et après, ouais, c'est son caractère aussi parce que ça a été toujours un mec hyper pointilleux, toujours à la recherche des petits détails, de toujours progresser, de toujours d'avancer. Et c'est ce qui a fait de lui un grand athlète.
Ouais. T'as eu la chance de le rencontrer ?
Oui. Alors en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, moi, j'ai commencé en Coupe du Monde en 2014. Où ben lui c'était sa dernière saison et du coup en fait quand je suis arrivée il m'a pris un petit peu sous son aile Et il m'a aidé un petit peu, voilà, sur mes premières Coupes du Monde, à gérer le stress, à gérer mes entraînements. Ça a été un petit peu mon grand frère de la Coupe du Monde.
Ok, trop marrant. Et bah écoute, c'est hyper intéressant. Je suis pas du tout étonné de tout ce que tu me racontes. En tout cas, ça a l'air vraiment de. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment constaté que c'était un mec super, super chouette et assez généreux de son temps. Donc, attends.
Ça marche plus?
Tu m'entends?
Ouais.
Ok, pardon, excuse-moi, j'ai cru que ça avait coupé. Je fais un petit peu de montage, mais il y a pas de souci. Mais du coup, ouais, non, je suis vraiment pas étonné de tout ce que tu me dis. Et j'avais peut-être une dernière question par rapport à lui. Lui, il a eu des blessures assez importantes. C'est pas quelque chose qui t'a freiné, toi? T'as jamais eu, même jeune, t'as pas eu peur effectivement, de la blessure ou de l'accident?
Si, forcément, on y pense toujours un peu parce que c'est vrai qu'on fait un sport à risque. Mais au fur et à mesure des années, j'ai appris à le gérer, parce que à le gérer et aussi à l'accepter, parce que c'est vrai que bon bah oui, on prend des risques à faire des saltos, à faire des corks, à skier vite dans les bosses, c'est sûr. Mais je me dis que je prends aussi des risques, voilà, à traverser la rue sur un passage piéton. Un conducteur peut ne pas s'arrêter quand je traverse. Donc je veux dire qu'on prend des risques dans la vie de tous les jours, et en fait, dans le sport de haut niveau, de passer au-dessus de ces risques, ça procure tellement de plaisir en fait et de satisfaction que du coup, bon bah, je l'accepte ce risque, mais en même temps, ça me freine pas du tout.
D'accord, ok. Ouais, donc très tôt, t'as eu conscience un peu de ça, et tout de suite, ça a fait, je pense, assez rapidement partie d'une constante de ton sport, quoi.
Oui, carrément.
Ok. Et du coup, à quel âge t'as commencé à faire tes premières compètes de ski de boss? T'as mentionné, ouais, 2010-2011, quand tu as commencé à faire tes premières boss. Tu passes assez rapidement sur de la compète?
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, moi qui suis issue des Pyrénées, on avait un petit circuit qui s'appelait le Pyrénées Freestyle Tour. Donc en fait, okay. C'était des stations dans les Pyrénées qui accueillaient, voilà, des compétitions de boss. Il y avait des boss, du freestyle, du slope, donc c'est vrai qu'on faisait un petit peu tout ça, et donc on a tous commencé très jeune, quoi.
Ok, d'accord, ok. Écoute, toi, t'as eu une ascension hyper rapidement, parce que je crois que tu fais tes premiers jeux en 2014, t'as 15 ans.
Ouais.
Ouais, tu réalises à ce moment-là, je sais pas, avec le recul, pour une jeune ado, faire les jeux à 15 ans, la pression et tout, comment est-ce que tu, avec le recul, comment est-ce que tu l'analyses un petit peu, cette ascension hyper rapide?
Non, je me suis vraiment pas rendu compte de ce qui se passait, parce que c'est vrai que 6 mois auparavant, en fait, on nous avait dit que potentiellement on pourrait participer au jeu. Donc j'avais 14 ans à ce moment-là, et c'est vrai que je me suis jamais mis dans la tête, mais attends, mais les jeux, c'est un truc de ouf, il faut des années de travail. Et en fait, je me suis mis dans une routine où voilà, j'allais tout donner pour participer à ces jeux. Je m'entraînais, enfin vraiment, je visualisais, je faisais plein de choses et tout parce que j'allais participer à ces jeux. Donc en fait, tout s'est assez vite enchaîné. J'étais hyper motivée, et j'avais jamais fait de Coupe du Monde, donc je partais quand même de loin. 6 mois avant, et au final, donc ils m'ont sélectionné pour faire les cinq coupes du monde juste avant les jeux, et on verrait comment ça se passerait. Donc voilà, j'ai pris mes marques en Coupe du Monde. Guilbeau m'a aidé à gérer un petit peu tout ça, et puis au final, ben voilà, je termine une Coupe du Monde avec Placide, où je fais donc ma première finale et où je termine 11e. Donc bon bah à 15 ans c'était cool, terminer 11e en Coupe du Monde.
Tu m'étonnes.
Et du coup bon bah c'est vrai que voilà, ça sentait pressentir peut-être une sélection pour les Jeux, et du coup bon bah après ouais voilà, ma sélection elle est tombée et je suis partie aux Jeux, et en fait tout s'est enchaîné tellement vite que je pense que j'ai pas réalisé, et quand je suis arrivée aux Jeux c'était tellement une autre planète, un autre monde, que je me suis dit bah vas-y, juste kiffe, et du coup j'étais vraiment dans l'insouciance, et j'ai profité à 300% de ces jeux, quoi, parce que c'était un bonus, quoi, pour moi.
Ouais. Et mais j'ai l'impression quoi, ouais, du coup, il y a eu une espèce de professionnalisation de pour toi qui s'est fait en l'espace de quelques mois, quoi, en l'espace d'une saison juste avant les Jeux. Et tu dis que tu l'as super bien vécu. Je sais qu'il y a d'autres athlètes, c'est qu'ils le vivent un peu moins parce que tu sais, tout d'un coup, ils doivent faire de la préparation physique, faire de la préparation mentale. Du coup, leurs journées deviennent hyper remplies alors qu'avant c'était juste un sport plaisir entre guillemets. Toi, t'as super bien vécu cette période-là.
Oui, parce que en fait, les Jeux, ça m'a tellement donné le goût à la compétition et le goût au travail, en fait, d'avoir goûté à ces Jeux qui est pour un sportif le Graal, en fait, ça m'a donné envie de deux fois plus travailler parce que voilà, je rêvais d'une médaille olympique et j'ai vite compris que pour arriver à ça, il fallait que voilà, je sois hyper carré sur mon hygiène de vie, sur mes entraînements, sur ma récup. Et j'ai aussi tout de suite rencontré des super personnes, dont ma préparatrice mentale, mes entraîneurs, qui en fait m'ont super bien accompagnée durant tout ça. Et c'est ce qui a fait que j'ai été professionnelle très très rapidement, et c'est ce qui m'a permis d'y arriver aussi rapidement, je pense.
Ok, ouais. Et t'as mentionné plusieurs fois la préparation mentale. Tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais et quels sont les comment tu le travailles un petit peu?
Du coup, en fait, c'est pour moi, c'est basé vraiment sur des échanges avec ma préparatrice mentale. Voilà, je lui parle de mes doutes, des peurs que je peux avoir. Par exemple, on parlait de la peur de la blessure tout à l'heure. Et ben voilà, c'est des choses que j'ai travaillées avec elle. Et du coup, elle m'aide à gérer un petit peu toutes ces pensées négatives que je peux avoir et de les voir, de voir ces pensées négatives sous un angle positif qui vont m'aider justement à avancer. Donc voilà, elle m'aide à gérer le stress de la compétition, l'appréhension, à mettre en place un programme pour des grosses échéances. Elle m'aide à gérer tout ça.
Ok, d'accord, ouais. Et du coup, tu la vois toutes les semaines et ça se fait sous une forme d'échange, et peut-être qu'elle te donne des petits exercices ou des petites astuces, enfin des petits exercices à mettre en place.
Ouais, carrément. En fait, on se voit assez régulièrement. Si c'est pas en présentiel, voilà, c'est en FaceTime ou des choses comme ça. Et du coup, voilà, dans toute ma préparation, elle me suit. Et du coup, ouais, exactement, de par des petits exercices ou de par des pensées à avoir, elle me fait évoluer du point de vue mental.
Ok, d'accord. Bah écoute, tu fais bien de le dire. Franchement, pour aujourd'hui avoir fait une cinquantaine d'interviews et d'avoir rencontré beaucoup de sportifs de haut niveau, je trouve qu'il y en a assez peu finalement qui se font accompagner par un préparateur mental. Je pense que ça a une assez mauvaise
réputation.
Image en France. Ouais, réputation, ouais. Exactement, tu l'as bien dit.
Vas-y. Non, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai lu le livre de Camille Lacour, et c'est vrai que lui, à son époque, pareil, ils n'avaient pas de préparateurs mentaux. Et en fait, ils étaient plus vus comme des psychologues, un petit peu comme des marabouts. Et c'est vrai que pourquoi amener un psychologue dans le sport? Enfin, c'est vrai que quand on pense psy, on pense souvent à des malades mentaux, quoi, on va dire. Et en fait, c'est vrai que je pense que c'est pour ça que ça a été un tabou et que ça a mis du temps à arriver dans le milieu du sport. Alors que pour moi, je pense que, enfin, c'est la clé de la réussite. En fait, il y a l'entraîneur technique, mais le côté mental, c'est tellement important, surtout pendant des grosses échéances, quoi.
Ouais. Carrément, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que maintenant, c'est tellement un curseur de la performance important que c'est dommage, et j'ai pas envie de dire idiot, mais presque risqué en fait de pas utiliser ce curseur.
Ouais,
c'est
clairement ça. Et pour exemple, moi, si j'avais pas eu ma prep mentale au jeu, j'aurais pas gagné les jeux, ça c'est sûr.
C'est vrai? Pourquoi tu dis ça?
Ah, parce que franchement, les jeux, ça a tellement été une semaine de stress, de remise en question, de peur, de doute. Et si j'avais pas eu ma prep mentale à côté de moi qui me rassurait, qui me donnait confiance en moi et qui m'aidait à gérer tout ça, je pense que je me serais écroulée sous la pression. Hein.
Ouais, ok. Ouais. Pourquoi? Parce que t'étais favorite. Hein. Là, c'était une année où t'as vraiment explosé, quoi, 2018.
Ouais.
Entre les résultats.
En fait, j'étais championne du monde en 2017. Donc, c'est vrai que ça prétendait à un titre olympique. Voilà, j'avais gagné des Coupes du Monde aussi juste avant les Jeux. Donc, forcément, j'étais dans les favorites. Et donc, il y avait beaucoup de pression et beaucoup d'attentes autour de moi, quoi.
Ouais. Et bah du coup, j'avais deux questions un peu par rapport au jeu. Je te pose les deux en même temps. Peut-être qu'elles ont rien à voir. On va les décortiquer. La première, c'est est-ce que le fait d'avoir participé une première fois, ça t'a aidé et comment est-ce que ça t'a aidé? Et la deuxième, c'était un peu quels sont les doutes que t'as eu avant ces deuxièmes jeux. J'ai vu notamment que t'avais fait une grosse bûche quelques semaines avant.
Alors oui. Clairement, ça m'a totalement aidé d'avoir déjà eu une expérience olympique avant, parce que justement, je me suis un petit peu écroulée sous la pression à mes premiers jeux. J'avais terminé 5e des qualifications, donc c'était juste énorme pour moi. Et parce que voilà, j'avais skié avec de l'insouciance et sans vraiment me prendre la tête. Et en fait, 5e des qualifications, on m'avait dit, t'es quand même à 2 places d'une médaille, donc. Moi, grande compétitrice que je suis, je me suis dit, allez, go for it. Et puis au final, voilà, je me suis écroulée sous la pression avec les médias et tout ça. Et du coup, j'ai un petit peu perdu mes moyens à la finale. Et en fait, ça m'a tellement enrichie et permis de me faire grandir que, du coup, c'était des erreurs que je savais qu'il fallait pas que je réitère au prochain jeu, notamment couper mon téléphone, me couper des médias, me couper des réseaux sociaux. Tout ça, et c'est vrai que c'est des choses que j'ai mis en place et qui m'ont beaucoup du coup aidé en 2018.
Ok, donc ce que tu as fait en 2018, c'est que tu as tout coupé par exemple. Tu as mis d'autres choses en place?
Non, vraiment, j'ai coupé. Et après, on avait commencé à préparer justement cette échéance bien avant. 6 mois avant les jeux, je commençais déjà à stresser et voilà, je m'imaginais les pires scénarios. Je manquais de confiance aussi sur les Coupes du Monde, donc avec ma préparatrice mentale, voilà, on a commencé à travailler sur les compétitions qui allaient précéder les jeux, justement pour me mettre en confiance et pour m'amener sereinement au jeu, on va dire.
Ok, écoute, merci en tout cas pour le témoignage, parce que je sais qu'il y a beaucoup de grands champions qui écoutent le podcast. Donc tu vois, hier j'ai reçu un petit message de René Lamotte. La semaine d'avant c'était Mathieu Péché qui avait écouté quelques épisodes. Et écoute, si ça peut leur donner des petites pistes de réflexion pour la préparation mentale et si ton témoignage peut servir, je pense que.
Enfin moi je me suis toujours hyper enrichie des expériences des autres sportifs. Enfin, j'ai lu plein de livres d'athlètes et c'est vrai que ça sert toujours d'avoir des petites clés des uns des autres, parce que on est peut-être tous différents, ça c'est sûr, chaque athlète est différent, mais voilà, les compétitions restent les mêmes et je pense que ça peut toujours servir et aider, quoi.
Ouais. Tu viens de dire que tu avais lu beaucoup de livres d'athlètes. Est-ce que il y en a quelques-uns qui t'ont marqué plus que d'autres?
Plus que d'autres. Je les ai tous aimés, je les ai tous dévorés. Franchement, j'ai fait du Manodou, du Camille Lacour, du Martin, du Lynn Sevan, j'ai fait André. Le dernier que j'ai lu, c'est André Agassi. Ouais. Bien intéressant, celui-là aussi, parce que c'est un mec, il a fait le yo-yo un petit peu toute sa carrière et bien cool celui-là aussi.
Ouais, et puis après lui, son histoire, elle est un peu particulière, presque triste. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais
avec son père.
Ouais, exactement. Et on sent que la passion a jamais été transcendante, quoi. Qu'il en a très vite fait un métier. J'étais un peu triste pour lui.
Tout à fait. Ça se ressent que il était dans le tennis de par son père et un petit peu par défaut. Et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que il a, sans passion et sans plaisir, il a réussi à gagner des grands chelems. Et c'est vrai que par exemple par rapport à moi, genre je sais que s'il y a pas de passion, s'il y a pas de plaisir, j'y arriverai pas. Et lui, il a réussi à surmonter tout ça et c'est juste incroyable, quoi.
Ouais, j'ai un peu le même constat que toi. Au début, en fait, j'étais persuadé qu'on pouvait pas faire un sport et qu'on pouvait pas être un champion sans qu'il y ait une passion à l'origine. Et ce livre, il m'a vraiment chamboulé, parce que lui, il démontre tout l'inverse, quoi. Il démontre que effectivement, au début, il y prenait pas de plaisir et pourtant c'est devenu un champion. Donc c'est vrai que ça se fait poser pas mal de questions, quoi.
Puis même sur ses dernières années, quand il continuait à jouer pour son académie et tout. Enfin, c'est beau, quoi. Enfin, justement, c'est ça qui le rend exceptionnel, quoi. Que justement, il y avait plus de plaisir. Il était au bout du bout et continuer tout ça pour l'avenir des enfants. Et c'est juste incroyable, quoi.
Ouais, ouais. Moi, le petit comble quand même, c'est qu'il se marie avec Steffi Graf, qui reste, je pense, la joueuse emblématique. Ouais. Donc, c'est assez marrant. C'est très marrant. Bah, écoute, ouais, merci pour les petites lectures. Et du coup, toi, quand est-ce que tu vas te mettre à l'écriture?
Ah, je sais pas. Peut-être un jour, ça viendra. Si j'ai des belles choses à raconter, pourquoi pas.
Bah, j'en suis sûr, t'as l'air assez un petit peu bavarde, et en tout cas t'aimes bien mettre beaucoup d'énergie dans ce que tu racontes. Je le vois sur ton vlog. Je savais pas du tout que t'avais un vlog d'ailleurs, et ça m'a fait bien. Ouais. J'ai passé beaucoup de bon temps à le regarder,
et c'est cool.
Ouais, franchement il est vraiment chouette. J'étais même surpris que t'aies pas plus d'abonnés et qu'il y ait pas plus de succès, mais en fait j'avais des petites questions un peu par rapport à ça en tant que créatrice de contenu. T'as notamment dit pendant les JO tu t'étais un peu coupé des réseaux sociaux. Comment est-ce que tu t'organises, toi, pour justement créer tout ce contenu et pour garder un petit peu le dynamisme, parce que je sais que ça consomme énormément d'énergie.
Ouais, c'est vrai que c'est pas facile, et d'autant plus qu'en fait je fais tout toute seule, donc on met juste la musique sur les vidéos, donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas beaucoup d'abonnés, parce que je fais ça un petit peu à l'arrache, j'oublie de partager sur les réseaux sociaux. Mais j'ai des retours positifs, donc ça c'est l'essentiel. Mais c'est vrai que il faut réussir à bien le gérer, parce que ça prend beaucoup de temps, même les réseaux sociaux, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je mets pas. Et je pense que la clé c'est d'être le plus naturel possible et d'avoir une ligne peut-être de communication, de savoir quel message on veut faire passer à travers tout ça, et pour justement le transmettre aux gens. Donc voilà, essayer d'être un petit peu cadré et surtout d'être naturel, en fait, de pas se prendre la tête. Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Parce que c'est vrai que ça, on perd du temps et de l'énergie à tout ça, quoi.
Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Déjà que ça prend de l'énergie, on va dire, à créer. Et si en plus tu prends la tête sur qu'est-ce que tu mets, qu'est-ce que tu mets pas, tu passes un temps fou. Mais t'as l'air d'avoir un petit peu quand même mûri la question. Du coup, est-ce que tu t'es fait accompagner ou est-ce que tu t'es formé sur le sujet un peu? Parce que c'est vrai
sur la communication.
Ouais, sur la communication.
En fait, je suis accompagnée de deux personnes dans la gestion de ma carrière. C'est donc j'ai une conseillère en image qui est une avocate et du coup qui gère tous mes partenaires. Okay. Et un petit peu mon image aussi, et après j'ai un attaché de presse avec qui on décide de comment je veux communiquer, quel message je veux faire passer, pour quelle cible, et comme ça me permet de me soulager, et par exemple des fois quand je veux partager des trucs et que je suis pas sûre que ce soit bien vu ou pas, je peux lui demander conseil, et c'est vrai que ça aide et ça soulage aussi.
Ouais, pour avoir communiqué un peu du coup avec ton attaché de presse, c'est vrai que c'était très carré, il avait l'air assez professionnel.
Donc il est pète sec un peu, mais
ouais, un petit peu, mais ça va. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc
mais c'est vrai que pour nous, c'est bien, parce que justement, ça fait beaucoup de travail et ça permet de nous protéger, de nous soulager aussi, parce que on peut pas tout gérer tout seul. Ça fait vraiment beaucoup, et du coup d'avoir des personnes comme ça qui gèrent pour nous les demandes de médias, les demandes de partenaires, les demandes de sollicitations, franchement c'est un gain d'énergie, et puis en plus c'est pas notre métier à nous, donc c'est vrai qu'on peut ne pas forcément bien le faire, et comme ça aussi ça permet de rester vraiment bien concentré sur l'entraînement et rien d'autre.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Beaucoup de gens se rendent pas compte du travail que ça prend, du nombre de sollicitations qu'on peut avoir. Tu vois, moi je l'ai vu à ma petite échelle avec le podcast. Je reçois maintenant pourtant c'est un petit compte Instagram, j'ai des petits réseaux sociaux, mais je reçois des messages plus de 5 ou 6 par jour, tu vois, et suffit que je perde le fil une journée, je me rends compte que je perds le fil complètement et que j'ai besoin d'être accompagné. Mais en tout cas, je voulais te féliciter, parce que moi j'aime bien pour préparer une interview, me balader un peu sur les réseaux sociaux, voir le contenu que la personne elle crée, Et comme tu l'as dit, tu as l'air hyper naturel et je pense que bon après tu as une énergie assez positive, je pense de manière naturelle et du coup c'est hyper rafraîchissant, ça fait plaisir. On sent que c'est pas faux, tu vois. On sent aussi que tu as des doutes et que forcément bah Instagram c'est un peu le monde du beau, du merveilleux, mais tu laisses aussi transparaître des choses un petit peu plus naturelles et du coup ça fait plaisir. Donc franchement, j'encourage les auditeurs à aller regarder et ça me fait de rien, mais ça me fait rebondir sur un autre sujet parce que tu t'entoures, on a parlé du coup beaucoup d'autres personnes, ta préparatrice mentale, on a parlé de ta carrière aussi, j'ai vu sur certains de tes posts Instagram d'ailleurs que à chaque fois que tu avais un titre, tu pensais très très souvent à récompenser toute l'équipe qui est derrière toi. Est-ce que peut-être pour clore un peu le sujet de l'équipe, est-ce que tu peux me dire quelles sont les personnes avec qui tu travailles régulièrement et qui t'accompagnent dans ta performance?
Bah oui, je les remercie à chaque fois parce que clairement, un sportif de haut niveau, il en arrive là où il en est grâce à un entourage. Enfin, en tout cas, moi, j'aurais jamais pu y arriver. Enfin, arriver là où j'en suis maintenant sans mes.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sans entraîneur, sans mon préparateur physique, sans ma prep mentale et surtout aussi sans ma famille. Parce que au début, quand on n'est pas structuré, quand voilà, on n'a pas vraiment de base d'entraînement, bah, c'est la famille un petit peu qui charge. Voilà, moi j'ai commencé le haut niveau, j'avais 15 ans, j'avais pas de permis de conduire. Donc voilà, c'était mes grands-parents qui m'amenaient en stage, qui ont fait des milliers et des milliers de kilomètres pour me trimballer à droite à gauche, pour m'emmener en compétition aussi. C'est ma tante et mes oncles qui venaient me chercher au lycée pour aller faire des examens médicaux, qui faisaient 3, 4, 5 heures de route par jour. Et voilà, c'est mes parents aussi, pareil, qui m'amenaient à droite à gauche, qui aussi, dès que j'avais un problème, ils essayaient de trouver une solution pour que voilà, j'avance. Et c'est tout ça en fait qui m'a permis de réussir, parce que si j'avais été toute seule, jamais plus j'aurais pu en arriver là. Et en fait, c'est sûr, c'est moi qui ai eu ces médailles, mais enfin, c'est des médailles de groupe en fait, parce que voilà, il y a toute une team derrière moi en fait.
Ouais. Ouais, bah clairement, ouais, ça sent. Bon, en tout cas, chapeau.
Big up à ma team.
Ouais, exactement. Franchement, on peut les féliciter. Et puis, pareil, tu vois, c'est encore comme le travail des réseaux sociaux. On se rend pas compte de l'effort groupé que ça demande pour atteindre des performances totales. Et du coup, peut-être aussi, tu dois avoir des gens médicalement. En fait, pour avoir un petit peu discuté avec, du coup, comme je te disais, Guilbeault, lui, physiquement, il a eu pas mal de galères, il a eu pas mal de choses. Et puis là, maintenant, il monte une boîte justement pour protéger un peu son dos et dans ce domaine-là. Physiquement, est-ce que tu te fais accompagner par un staff et est-ce que tu sens à quel point c'est un sport éreintant ou est-ce que c'est facile pour toi peut-être?
Oui, j'ai un staff autour de moi, donc déjà j'ai mon prep physique, Rémi qui me fait mon programme, donc ça c'est lui qui entretient mon corps, on va dire. Et puis après il y a, on va dire, toutes les personnes qui entretiennent, on va dire, un peu plus profondément, que ce soit ostéo, un kiné, une acupuncture aussi. Et en fait, ouais, j'ai plein de personnes avec qui je travaille autour de moi. Et en fonction de mes besoins, de ce que je ressens dans mon corps, je vais les voir pour qu'ils me remettent en place un petit peu.
Ouais. Et du coup, c'est quoi les blessures fréquentes dans le ski acrobatique?
Ce serait les genoux. Les genoux. Ligaments croisés, ouais. Certains, le dos et les épaules. Ouais.
Ok. Et ouais, donc... en regardant d'ailleurs tes vidéos, j'ai vu que tu faisais une prépa physique de malade, assez proche un peu du CrossFit, non? Il y a beaucoup de mouvements inspirés de ça. Est-ce que tu prends plaisir à faire tout ça? Parce que je sais que pour certains sportifs passionnés, c'est pas une partie de plaisir la prépa physique.
C'est vrai que ça l'a pas toujours été, mais mais là ouais, depuis quelques années, j'ai compris qu'en fait j'étais obligée de passer par là, donc finalement bon bah souvent, si vous demandez à mon prep physique, je râle souvent, mais je fais quand même toujours les exercices qu'on me demande de faire. Et là, depuis ouais 1 ou 2 ans, en fait, je commence à aimer me faire mal, et je commence à vraiment aimer cette satisfaction de d'avoir mal et de finalement se sentir progresser. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent quand même assez rapidement en prep physique. Et qui du coup ouais, fait aussi bien du bien à la tête. C'est sûr que sur le moment on passe un sale quart d'heure, mais après quand on rentre le soir à la fin de la journée, qu'on est posé sur le canapé, on se dit ah bon bah, c'était quand même une bonne journée.
Ouais c'est clair. Une fois que t'as le cerveau un peu vidé, t'as l'endorphine à fond, c'est sûr que c'est plus agréable. Et tu disais que t'avais eu que depuis 2 ans tu commençais à prendre du plaisir. Il y a eu un déclic particulier? C'était avant les jeux, après les jeux du coup?
Ouais, c'était après les jeux. En fait, le fait d'avoir eu cette médaille que vraiment j'avais dans la tête depuis des années et des années, ça m'a tellement soulagée et ça m'a tellement libérée en fait, parce que voilà, j'ai eu ce que je voulais, donc j'étais satisfaite. Et du coup, ça m'a permis d'avoir plus de plaisir dans ma préparation, parce que je pense qu'avant j'étais un petit peu dans la peur de mettre toutes ces choses en place et de pas réussir, cette peur là et au final bah d'avoir réussi mon objectif, voilà, ça m'a libérée et je suis beaucoup plus sereine maintenant, parce que je prends beaucoup plus de plaisir à faire ce que je fais, parce que je me dis que bon bah voilà, j'ai eu ma médaille olympique et que maintenant c'est du positif, quoi.
Ouais, mais c'est marrant parce que c'est un phénomène que je retrouve de plus en plus, que j'avais pas compris avant, mais tu sais, une fois que t'as passé ce cap de c'est bon, j'ai atteint l'objectif, et que tu le fais vraiment pour toi, et peut-être aussi un petit peu pour je sais pas comment dire, mais il y a un peu toute cette pression de dire voilà, j'ai coché la case, maintenant plus personne peut me reprocher rien du tout, maintenant je le fais pour moi et pour trouver les moteurs. Mais du coup, toi, qu'est-ce qui te motive à continuer encore?
Bah en fait, c'est que comme je te disais, je commence vraiment à prendre du plaisir dans tout ce que je fais, même une sale séance de cardio. Bon, c'est dur, franchement, j'ai envie de vomir à la fin de la séance, mais je suis trop contente de l'avoir fait parce que voilà, je fais le sport, c'est devenu finalement mon métier, et que c'est juste génial de pouvoir vivre toutes ces expériences, de pouvoir vivre de mon sport et aussi de pouvoir faire du ski, on va dire, à longueur d'année. Et moi, j'aime tellement ce sport, il me procure tellement des sensations incroyables que c'est pour ça que je continue, parce que je me fais plaisir, quoi.
Ouais. Donc, okay, bah, on sent que, ouais, y a la passion qui parle, en tout cas. Mais du coup,
c'est pour ça que je comprends pas André Agassi, comment il a pu continuer, parce que moi, j'aurais pas pu, ça, c'est sûr.
Ouais, mais c'est sûr que franchement, moi, toutes ces histoires un peu de stars ou de champions qui ont un peu grandi avec une certaine forme de rigueur et sans passion, je comprends pas comment ils ont fait, tu vois. Je pense aussi à Michael Jackson, tu vois, comme ça, où on sait qu'il a eu une enfance terriblement dure, tu vois, il y en a quelques-uns. C'est vrai que ça remet un peu les idées en place, tu vois, ça fait se poser des questions.
Clairement.
Mais, ouais. Et du coup, toi, tu prends toujours autant de plaisir. Il me semble que t'as tout gagné. Dis-moi si je me trompe depuis. Il te reste, c'est en single, c'est ça? C'est le trophée que t'as eu au championnat, aux Jeux Olympiques, que tu dois avoir en Coupe du Monde, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Alors, du coup, peut-être pour les auditeurs qui connaissent pas hyper bien le ski acrobatique, en gros, il y a une épreuve où vous êtes deux, où c'est une compétition, c'est ça, en parallèle?
Ouais, c'est ça, en parallèle.
Et une autre où c'est où vraiment vous êtes tout seul et vous êtes noté à la fin, c'est ça?
Exactement. Bon, en fait, on est noté sur les deux modèles. C'est juste que voilà, on a quelqu'un à côté de nous, et on va dire que ça pousse un peu plus les limites.
D'accord. Ouais. Ok. Et ça vous force à aller plus vite, non?
Oui. Ouais. On skie beaucoup plus vite toujours en parallèle, parce que voilà, justement, on se fait titiller par un adversaire et. Et c'est vrai que visuellement, les gens souvent préfèrent le parallèle, parce que voilà, il y a beaucoup plus de suspense, et d'avoir deux personnes l'une à côté de l'autre, ça fait quand même bien le show.
Ouais, et puis ça peut déstabiliser un peu aussi peut-être quand tu
avant
de lancer un backflip ou quoi, si tu vois l'autre partir juste avant, ça
c'est peut... ça, exactement, on essaye de le rattraper et puis ça peut pousser à la faute et tout. Ouais, non, c'est une compétition qui est, enfin c'est une discipline qui est un peu plus stratégique et tout, parce que du coup on s'adapte aussi en fonction de son adversaire et tout ça.
OK. Et du coup, vu que t'as presque tout gagné, est-ce que tu te lances de nouveaux objectifs? Comment est-ce que tu te vois là sur les prochaines années? Ou est-ce que vraiment le but c'est vraiment toujours de mettre le plaisir avant tout?
Bah, c'est sûr que oui, le plaisir pour moi c'est la clé. Et je pense que le jour où vraiment je me ferai plus plaisir, j'arrêterai. Après, je pense que ce qui me fait beaucoup continuer aussi, c'est que je sens que je peux progresser. Je peux vraiment m'améliorer au niveau surtout des sauts et encore au niveau du ski, donc c'est ça qui vraiment me pousse à tous les jours à me lever et à aller me défoncer à l'entraînement, quoi.
Ok, trop cool. Et tu te vois comment du coup dans 10 ans?
Pff, je sais pas. j'aurai 31 ans, j'en sais rien, j'aimerais faire plein de choses en fait, plein de choses différentes. Parce que c'est vrai qu'en tant que sportif, on n'est pas trop habitué à la routine et on n'aime pas trop ça. Donc, je sais pas, ouais, peut-être consultant de télé, faire un peu de presse, de consulting. Je sais pas, peut-être que je monterai un business ou un truc comme ça. Mais ouais, avoir un métier qui me fait toujours bouger un petit peu quand même.
Ouais, ok, ouais. Et puis avec peut-être aussi une dimension un peu d'indépendance et de performance aussi, j'imagine.
Tout à fait, ouais. Avoir toujours cette adrénaline de quelque chose à réaliser ou quoi.
Ouais, ok. J'avais une autre question. C'était un petit peu sur les, bah, du coup, relatif au sport d'hiver. Vu que tu peux, est-ce que tu peux t'entraîner l'été concrètement?
Oui, alors bon, bah du coup on fait de la prep physique, donc ça on le fait beaucoup l'été. Après, pour travailler les sauts, on fait du trampoline, donc ça gêne pas aussi l'été, du trampo, du water jump, et ensuite on va sur les glaciers en altitude pour retrouver un petit peu la neige, et au mois d'août en principe on part en hémisphère sud, en Australie, parce que du coup vu que les saisons sont inversées, on va chercher un petit peu le froid là-bas.
D'accord, ok, ouais. Donc du coup, tu voyages pour aller trouver de la neige à l'autre bout.
Ouais.
Ok, hyper intéressant. Et du coup, les périodes de repos, comme tu l'as dit, c'est printemps et automne, un peu l'entre-saison, quoi.
Juste le printemps. Okay. Le mois d'avril, c'est vraiment le mois de repos qu'on a. Et après, à l'automne, en fait, pareil, on fait de la prep physique tout le temps. On retourne aussi sur les glaciers, skier. En fait, on n'a pas vraiment de temps mort. Entre début mai et fin mars, après la saison. On a 2 semaines de pseudo-vacances en août, et c'est tout.
Quoi? On vous donne des vacances? C'est inacceptable.
Ouais, bon, c'est quand même des vacances bien sportives.
Ok. Ouais, on devait faire du vélo ou des choses comme ça?
Ouais, muscu, renforcement, gainage, tous ces trucs, ouais.
Ok. Et tu partages un petit peu tes entraînements de prépa sur les réseaux ou?
J'avais fait un vlog sur ça.
Je l'ai pas vu.
J'avais fait une journée type aussi en story Instagram juste après les jeux. Mais après non, je le partage pas trop. En fait, c'est vrai qu'on en chie tellement que je pense pas forcément à sortir mon téléphone et à filmer ce qu'on fait, quoi.
Bah ouais, j'imagine. En plus, toi, t'as un peu la tête en vrac à ce moment-là. C'est pas toujours le moment où t'as envie de te montrer. Ouais.
Tu privilégies plutôt ton temps de récup plutôt que de passer quelques minutes sur le téléphone et à filmer les autres, quoi.
Ouais, exactement. Ouais. Bah, c'est pareil. Moi aussi, on me demande de partager un peu mes entraînements de CrossFit et je suis pas. C'est pas le moment où je suis le plus friendly. Ouais. Bah écoute, trop cool, trop cool. Bah comme je te le disais pour la fin, j'ai un peu des questions qui m'ont été poussées par les auditeurs. Okay. C'est un petit peu des questions un peu sur toi, savoir un peu ce que tu aimes. Et la première, c'est de savoir, c'est quoi une bonne journée pour toi?
Une bonne journée. Alors déjà, il faut qu'il fasse beau ou qu'il neige.
Ouais.
Avoir pris un bon petit déjeuner et une journée où j'ai fait des choses, où tout ce que j'avais à faire, je l'ai fait, j'ai tout mis en ordre, tout est bien rangé, et ouais, la satisfaction d'avoir accompli quelque chose dans la journée.
Ok, ok, cool. Et satisfaction d'avoir accompli quelque chose dans la journée, ouais. Ça peut être aussi bien du sport que du que quelque chose d'un peu plus comment dire, professionnel.
Je sais pas si carrément, c'est... ouais, c'est ça exactement. Autant ce sera avoir fini un dossier en cours ou avoir répondu à tous mes mails, comme voilà, avoir fait une bonne séance de sport.
Ok, ok, ok. Quel est ton pire souvenir de ta carrière?
Mon pire souvenir de ma carrière, je pense que je me suis toujours, même dans le négatif, j'ai toujours réussi à sortir du positif. Peut-être ma finale en 2014. Vraiment, j'ai été déçue d'avoir perdu mes moyens et ouais, c'est peut-être ça. Mais en même temps, il y a un côté positif aussi. Je pourrais dire aussi mes jeux en 2018. Franchement, j'ai passé des sales quarts d'heure de stress et tout. Donc ouais, non, j'en ai pas vraiment de terrible quoi.
Ok. Mais d'ailleurs, ouais, comment est-ce que tu libères un peu la pression avant une compète? On a parlé un petit peu de ta prépa mentale, mais quand t'es tout seul dans ta chambre, t'as quelques heures à attendre avant le passage. À quoi tu penses? Comment est-ce que tu fais pour libérer la pression?
Un petit peu de méditation, de lâcher prise. Surtout ouais, un petit truc de lâcher prise. Ma prep mentale, elle m'a acheté un petit livre où justement, bah voilà, on a des petits exercices de méditation et de concentration qui permettent de voilà d'oublier un petit peu peut-être ce qui se passe autour et de se recentrer sur soi-même. Et après, ce que je fais aussi, c'est que j'ai des vidéos de ma nièce qui a 2 ans sur mon téléphone. Je me suis fait un petit dossier Clarisse et je regarde des vidéos d'elle où elle fait n'importe quoi, où elle crie et tout, et du coup ça me divertit et ça me détend.
Ok, ok, c'est trop marrant. et t'as un porte-chance ?
Un porte-bonheur ? J'ai pas de porte-bonheur, mais j'ai un petit Bouddha que pareil ma prep mentale m'a offert. Et en fait ce Bouddha, voilà, pour moi il a une signification. Et en fait, je le porte dans ma veste. Et quand voilà, je suis un petit peu perturbée, que je sais plus où donner de la tête et que je stresse pendant mes compètes, bah, je me recentre un petit peu sur mon Bouddha. Je me rappelle ce qu'il veut dire et ce qu'il dégage comme énergie. Et du coup, ça me permet de me recentrer un petit peu.
Ok, ok, ok. Est-ce qu'il y a un souvenir inavouable que tu pourrais nous partager, notamment suite peut-être à la victoire des Jeux, un souvenir de soirée?
Ah, la victoire ou des Jeux. Ben franchement, à la soirée, on n'a pas fait de grosse soirée. Ça c'est tellement chaîné vite que franchement, là, des dossiers de soirée après les Jeux, j'en ai vraiment pas. par contre, je pourrais vous en. C'était au jeu, mais c'était à mes premiers Jeux. Franchement, j'en ai honte de celle-là. En fait, je monte sur le télésiège. On était à l'entraînement, donc pendant les Jeux de Sochi, on s'entraînait sur la piste avant la course. On s'entraînait avec les garçons, et du coup, je monte sur le télésiège avec un Australien. Et bon, bah, enfin, je sais pas, j'avais peut-être sûrement un petit peu la tête ailleurs et tout. Et en fait, je demande à cet Australien si c'était ses premiers Jeux Olympiques. Donc bon, bah voilà. Et en fait, il me répond. Non, c'est mes troisièmes, mais genre hyper méchamment quoi.
Okay.
Moi je me dis mais quel con quoi, ça va, j'essaye de lancer la conversation et il me répond comme ça. Et en fait, bah le soir j'en parle aux autres athlètes et en fait il s'avère que c'était Dalbell Smith qui avait été champion olympique à Turin et vice-champion olympique à Vancouver et qui du coup faisait ses troisièmes jeux et une merdeuse de 15 ans qui lui demande si c'était ses premiers jeux. Donc ouais, ça c'était bien drôle quoi, et ça reste encore parce que mes entraîneurs et les athlètes ils se foutent de ma gueule encore par rapport à ça.
Ok, d'accord. Et tu l'as recroisé depuis?
Non, je l'ai pas recroisé parce que il a arrêté ouais. Justement bah après les jeux. Okay. Mais il vaut mieux pour moi parce que je pense que à chaque fois que je le verrai je me sentirai trop mal.
Bon, on lui fait une bise hein.
Ouais, on lui passe le bonjour.
On lui passe le bonjour, exactement. Trop cool. Et ouais, est-ce que tu célèbres un peu quand même tes victoires ou tu relâches un petit peu la pression après un gros titre ou après une belle victoire?
Oui, ouais, on célèbre quand même un petit peu. On est un peu plus on fait gaffe quand même pendant la saison parce que voilà, après t'accumules vite de la fatigue, mais en principe ouais, chaque fin de saison on fait une bonne bringue avec les entraîneurs et tout, ça permet voilà de relâcher la pression et de fêter ce qui est arrivé aussi. Je pense que c'est important voilà de le célébrer.
Ouais, bien sûr, c'est important de partager ça un peu avec les gens autour de soi, ouais, c'est sûr.
Carrément.
Est-ce que tu as un plat préféré? Je crois que t'es gourmande.
Oui, alors tout ce qui tourne autour du chocolat, j'adore. Mon dit, petit péché si mignon, ce serait les fondants au chocolat, cœur chocolat blanc.
Ok, bon bah si, écoute, s'il y a des fans qui nous écoutent et qui ils savent comment...
Qui veulent me faire des fondants, je prends avec plaisir.
Envoyez vos recettes à Perrine, ça lui donnera l'eau à la bouche. Okay, trop cool. Est-ce que récemment, il y a un film ou un livre qui t'a vraiment marqué et que t'auras envie de partager aux auditeurs?
Alors j'ai vu plein de trucs
sur Netflix.
Du coup c'est ce que j'allais dire, la petite série sur Bill Gates sur Netflix, c'est Inside Bill Brain, et franchement elle est bien intéressante. On voit à quel point il a dévoué sa vie à essayer de limiter les pandémies qui pouvaient y avoir en Afrique ou dans ces pays, et c'est quelqu'un qui est un petit peu futuriste, hein, je pense. Et qui est très intelligent aussi. Donc, ça, c'est quelque chose de bon à voir. Après, il y a une série aussi, Le Cerveau, sur Netflix, qui est bien intéressante aussi, qui explique parfois nos humeurs, des choses comme ça. Et un livre, c'est Caroline Miss, Anatomie de l'esprit. Donc, Caroline, en fait, c'était une journaliste qui s'est totalement, bouger vers un autre métier qui est un peu spiritualisme et tout ça, et en fait elle arrive à avoir des sens où elle ressent les maladies que peuvent avoir des malades qui viennent la voir, et elle aide à les soigner. Par exemple, il y a un monsieur qui est venu la voir qui avait le VIH, et sans avoir recours à la médecine médicamenteuse, elle a réussi à le gagner, à le guérir, alors que bon bah il avait quand même le virus du VIH. Et du coup, elle amène toute une réflexion au niveau des médicaments qu'on peut prendre pour soigner un mal de crâne, alors que s'il faut, on pourrait le soigner différemment, quoi.
Ok. Bah écoute, je note Caroline Miss. Ça a l'air hyper intéressant en tout cas.
Ouais.
Donc je me le suis noté. Moi, dans le même genre, j'ai lu L'intelligence émotionnelle de Daniel Coleman.
D'accord.
Pareil, okay. qui explique un petit peu la différence entre les gens qui arrivent au succès et les gens qui n'y arrivent pas, et ça me fait penser à toi quand tu m'as parlé tout à l'heure, parce que il y a énormément la notion de être capable de s'entourer, et notamment rien que des personnes comme Einstein, peut-être qu'il y a certains le prennent pour un fou qui était tout seul, mais en fait non, il avait une dizaine d'amis très brillants avec qui il déléguait des choses, il pouvait échanger, et que c'était quand même quelqu'un qui était capable de nouer des amitiés et capable de s'entourer. Donc
je le lirai, je pense.
C'est une grosse référence, je savais pas du tout, mais c'est un prof de psychologie d'Harvard. Du coup, c'est assez intéressant. Bon, il y a des passages un peu trop scientifiques que je te recommande de sauter, mais surtout ce qui est un peu plus quand il raconte les expériences et tout, c'est très très intéressant. Donc je te recommande. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans ta playlist? Est-ce que tu écoutes un peu de musique?
Ouais. Alors moi j'écoute de tout et de rien. En ce moment je suis sur l'album de Justin Bieber, le dernier.
Waouh, c'est dit, c'est annoncé.
Ouais. Non mais franchement il est lourd, son dernier album. Franchement c'est les mecs un peu deg et tout, parce que toutes les filles étaient amoureuses de Justin, qui du coup sont dit ouais mais il est trop nul machin et tout. Mais franchement il est lourd. Après, j'écoute Aya Nakamura, du Céline Dion, j'écoute du Francis Cabrel, j'écoute du Michael Jackson, je peux écouter du Drake aussi, du Rihanna. Franchement, je fais de tous les styles.
Ok. Bon, je sens qu'avec l'énergie avec laquelle tu le dis, tu dois pousser la chansonnette sous la douche ou sur le télésiège.
J'ai même un karaoké stéréo que j'ai acheté. parce okay. que je fais des karaokés aussi avec mes copines. Donc, ouais, dès que je peux chanter, dès que j'ai l'occasion de chanter, je chante.
Ok, bon, je te prends
pas
le...
désespoir des autres.
c'est toi qui fais neiger, en fait, c'est ça?
Ouais, c'est ça, exactement.
Trop cool. Si tu pouvais, tu vois, devenir une petite souris et te glisser sur ton épaule quelques heures avant ta première finale des JO et que tu pouvais te donner un conseil à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dirais?
Je dirais détends-toi.
Ouais.
Je me rappelle, j'étais tellement stressée, j'avais limite envie de pleurer au départ. Donc, ouais, je pense que je me serais dit, oublie le résultat, vraiment, et fais-toi plaisir.
Ok. Et c'est encore, c'est un conseil que tu donnerais à une jeune qui vient de voir et qui te dit, qui a 15 ans, qui te dit, je veux être championne olympique de ski, acrobatique.
Je lui dirais, travaille. Beaucoup, ouais. Énormément. Vraiment, ouais, il faut se donner à fond dans ce projet. Il faut pas avoir peur de prendre des claques aussi. Ouais. Parce que c'est un peu, ça arrive quand même dans le sport de haut niveau. Et bien s'entourer aussi. Carrément. Okay. Parce que, enfin, moi vraiment, c'est ça qui a fait la différence, je pense.
Ok. Trop cool. J'avais une dernière petite question, c'était de savoir s'il y a encore des choses qui te font peur et est-ce que tu as des craintes encore aujourd'hui?
Par rapport au sport de haut niveau?
Ça peut être d'autres choses. La dernière fois, on m'a cité les serpents.
Ah.
Sur le podcast, mais non, mais oui, ça peut être aussi par rapport au sport, ouais, bien sûr. Mais est-ce que t'as des peurs?
Ouais, forcément, la peur de perdre un proche. Peut-être ça. Après, c'est vrai que ouais, les serpents, les araignées, j'aime pas trop ça non plus.
Ok.
Mais après, par rapport au sport, non, j'ai pas peur de. Bah, c'est sûr que voilà, j'aimerais avoir une longue carrière, donc j'espère que ça va pas s'arrêter tout de suite et que je vais continuer de rester en forme.
Ok. Bon, bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. T'es une grande championne. Je pense que t'inspires énormément de gens. Donc, il y a vraiment pas de raison, tu vois, à part peut-être un petit coup de malchance, mais en tout cas, tu resteras, je pense, gravé dans les mémoires et tu communiques super bien. Donc, moi, je me fais pas de soucis pour toi du tout.
C'est gentil, merci.
Mais ne tente pas tout de suite un triple backflip quand même. Attends un peu que quelqu'un d'autre le fasse avant.
Ça, ouais, je suis un peu une trouillarde par rapport à ça. C'est vrai que je préfère toujours envoyer les autres avant au crash. Donc, ça devrait aller.
Ok, ça marche. Bon bah écoute, trop cool, merci pour tout. Comme je te disais, un peu pour clôturer l'interview, c'était de savoir à qui tu voulais donner le micro et quel était peut-être un sportif dans ton entourage que tu me recommandes d'aller interviewer.
Alors elle est pas française, okay. Donc j'espère que tu parles bien anglais, serait Lynn Sevan.
Ok, d'accord, je sais pas du tout qui c'est.
C'est une des plus grandes skieuses alpines de tous les temps. En fait, c'est elle qui a le record de victoires en Coupe du Monde chez les femmes. Elle okay. a genre 18 globes de cristal. Enfin, juste incroyable. Et en fait, elle s'est souvent blessée. Et du coup, à chaque fois qu'elle s'est blessée, elle est revenue et elle recommence à gagner. Et c'est une femme qui est juste extraordinaire parce que, voilà, c'est cette force mentale qu'elle a. De toujours rien lâcher, alors que franchement, il lui est arrivé les pires blessures qu'on peut avoir. Et toujours, elle a eu ce mental de revenir, de jamais rien lâcher pour finir en apothéose. Et c'est juste incroyable ce qu'elle a fait.
Ok, bah écoute, ouais, je vais parfaire ma culture tout de suite et je vais regarder un peu ce qu'elle a fait. Et du coup, tu la connais personnellement? C'est quelqu'un que tu as eu la chance de rencontrer?
Non.
Et avec qui?
Enfin, je l'ai croisée au jeu, j'ai eu droit à mon selfie au jeu en 2018. Mais après, non, jamais eu l'occasion de discuter avec elle.
Ok, d'accord. Bon bah écoute, trop cool. Je vais faire du mieux que je peux pour essayer de la contacter. Écoute, merci encore Perrine pour cet échange.
Avec plaisir.
Merci encore pour ton temps. C'était vraiment un super moment. Et écoute, je te souhaite vraiment de très belles choses pour la suite.
Ben merci, c'est gentil. Puis à bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.